Les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole, vous proposent 9 documentaires retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier. Une série d'entretiens avec des historiens, des guides, des médecins, des structures médicales et des responsables des labos à la pointe de la recherche. Les figures emblématiques de la médecine à Montpellier, Lapéroni, Rondelet, Arnaud de Villeneuve, Guy de Chauillac et les Rabelais. Un documentaire proposé par Divergence FM. Tous ces noms, si familiers aux Montpelliérains, renvoient à l'histoire prestigieuse de la médecine et de son enseignement. Cela fait 800 ans que l'histoire de Montpellier est intimement liée à celle de sa faculté de médecine, la plus ancienne du monde. La médecine s'y développe grâce à la liberté d'enseignement et l'ouverture aux érudits juifs, arabes et chrétiens, notamment grâce à Guillaume VIII, qui promulgue en 1181 un édit qui va autoriser toutes les confessions et nationalités à enseigner la médecine, ce qui va faire de Montpellier une terre médicale de référence. À la Renaissance, l'anatomie fait des progrès décisifs et le savoir se rationalise, ouvrant la voie à la médecine moderne. À cette époque, la botanique n'est pas en reste et prend son essor qui se matérialise par la création de jardins remarquables qui permettent de nourrir la pharmacopée montpelliéraine. Les hôpitaux de la ville, qui portent aujourd'hui les noms prestigieux des figures emblématiques de la médecine montpelliéraine, participent encore au renom de notre ville dans le domaine médical et de la recherche.
Pour cette émission, nous avons contacté Raymond Alcovert, auteur d'un livre sur les grandes figures de l'Hérault, ces Héraultais qui ont fait l'histoire et qui, bien sûr, s'est intéressé aux médecins qui sont importants dans l'histoire de l'Hérault et de Montpellier. Donc, il commence avec Arnaud de Villeneuve, qu'il appelle la plus grande figure médicale du Moyen-Âge.
Oui, parce qu'il est effectivement très important, Arnaud de Villeneuve, parce que c'est un peu lui qui a posé des bases assez importantes de la médecine. Bon, on lui doit notamment l'emploi de l'alcool en médecine, qu'on appelait l'eau ardente de Maître Arnaud, l'essence de térébenthine, la distillation pour la pharmacie. En fait, c'est vraiment une très grande figure. Il est du XIIIe siècle et il est né en Aragon. Hein. C'est pas un Montpelliérain de naissance, mais il va s'y installer à Montpellier, passer une partie importante de sa vie et marquer l'histoire de la ville, dont on sait effectivement que la médecine a joué un rôle très très important.
Donc Arnaud de Villeneuve était un Aragonais. Est-ce que l'on sait auprès de qui il a été formé ?
Il a été formé, à l'école à Naples d'abord, parce qu'il a fait, c'est l'époque où quand même les étudiants et tout le monde circulent pas mal entre les différentes universités, donc notamment à Bologne, à Naples, puis il a beaucoup voyagé et effectivement. Il arrive quand même à un moment où Montpellier a déjà, son université de médecine a déjà quand même un certain renom, donc il participe à ce renom-là. Et puis, il y a aussi un fait qui est important, c'est que c'est l'époque où les papes sont à Avignon, et ça a beaucoup contribué au développement de l'université de médecine de Montpellier, puisque tous ces grands médecins-là étaient aussi d'excellents praticiens, enfin d'excellents docteurs, on dirait aujourd'hui, et donc qui soignaient notamment les souverains et les papes, et le fait qu'ils soient à proximité, ça a beaucoup aidé aussi.
Après Arnaud de Villeneuve, nous évoquons la figure de Guy de Chauillac, qui était chirurgien.
La grande chirurgie de M. Guy de Chauillac, médecin très fameux de l'Université de Montpellier, composée l'an de grâce 1363. Restitué nouvellement à sa dignité par M. Laurent Joubert, médecin ordinaire du roi et du roi de Navarre, premier docteur régent, stipendier, chancelier et juge de la dite université. À Lyon, par les héritiers Symphorien Béraud, avec privilège du roi, 1592. Guy de Choyac. Disons donc, premièrement, qu'est-ce que chirurgie ? Et j'assois que plusieurs l'ayant défini en plusieurs sortes, ils ont néanmoins tout pris le fondement de notre père Galien en l'introductoire de médecine, quand il dicte « Chirurgie est partie de la thérapeutique ou art curatoire, guérissant les hommes par incision, cautérisation et rhabillement des os. » À laquelle définition il ajoute en commentaire du premier livre du régime S maladie aiguë et par autre opération manuelle. Ainsi, il est à compliment descrite selon qu'elle est considérée étroitement comme le tiers instrument de médecine. Mais étant considérée plus largement en tant qu'elle est science de curer les maladies, est-ce qu'elle échait ? Ou est prétendue opération manuelle sans, en folklore des deux autres instruments de médecine, savoir est breuvage et diète ou manière de vivre, du dire et consentement de tous, on lui assigne telle description. Chirurgie et science qui enseigne la manière et la qualité d'ouvrer, principalement en consolidant, incisant et exerçant autre opération manuelle, guérissant les hommes, et tant qu'il est possible. De ce qui a été dit, il appert que le corps humain sujet à maladie, guérissable par la science de chirurgie, est le sujet de chirurgie et que ôster la maladie et conserver la santé, en tant qu'il est possible avec la science de chirurgie, est la fin et intention de cette science. Les espèces de chirurgie, selon Joannis, sont deux en guerre, savoir et opérer en membres molles et opérer est dur. Mais en espèces, elles sont cinq. Savoir est la science qui enseigne d'opérer est apostem, plaie et viscère et qui enseigne d'opérer est restauration des os et autres mots auxquels échait opération manuelle. Les opérations est sudites parties sont trois. Savoir et séparer le contenu, joindre le séparé et retrancher la superflu. On sépare le contenu en phlébotomant et scarifiant. On joint le séparé en consolidant les plaies et réduisant les fractures. On extirpe le superflu quand on cure les apostèmes et retranche les glandes.
Alors lui, c'est justement, enfin, je l'ai appelé le père de la chirurgie parce que c'est lui qui a vraiment posé les bases de la chirurgie qui était au début effectivement une discipline qui n'était pas du tout reconnue puisqu'il s'agissait de toucher le corps. Parce que là, il faut se rappeler tous les tabous qu'il y avait au Moyen-Âge concernant le corps. Hein. Au début, on ne savait pas du tout quelle était l'anatomie. Et donc, alors lui, il est né en Margeride, ce qui est enfin, dans l'actuelle Lozère, et ben, pareil, il réussit à soigner une noble des environs qui, pour le remercier, lui paye des études, et il va venir, lui aussi donc à Montpellier, et il va contribuer lui aussi grandement au développement de la chirurgie en soignant, en faisant des guérisons, un petit peu donc comme tous les autres grands médecins. Alors après, il va se poser aussi le problème de l'autopsie, effectivement, etc., qui va réussir. Là, il fallait briser des tabous. Et donc, il va écrire ensuite un livre qui va faire pendant des siècles référence, qui s'appelle « La grande chirurgie », qui a été publié à Montpellier. Donc, il a lui aussi a grandement centré son activité sur Montpellier, dont l'université, au XIVe et au XVe siècle, est en plein essor, malgré tout ce qui a pu arriver, c'est-à-dire c'est aussi l'époque, le 14e, c'est aussi l'époque de la peste noire, enfin, donc ça a été quand même des époques très dures, mais bon, qui a permis aussi aux médecins de développer leurs activités, et il y en avait effectivement.
Si j'ai bien lu, Guy de Choliac est un des premiers chirurgiens qui va se livrer à des dissections.
Oui, exactement, parce que c'était, il y avait un tabou, mais là, à un moment donné, la peste faisait de tels ravages, effectivement. Hein, il faut rappeler, c'est plus entre la moitié et un tiers de la population de l'Europe qui a péri, donc c'est quand même quelque chose. Donc, à un moment donné, c'était tellement grave que bon, on a un peu les tabous concernant la dissection. On peut sauter en certains endroits, notamment ici. Donc, il a permis de faire ça. Il faut aussi se rappeler que ce qu'il faut dire aussi, c'est pourquoi l'université de Montpellier. Pourquoi Montpellier s'est développée en tant qu'université de médecine? C'est aussi parce que tout le savoir médical est arrivé à transiter, est venu par les Arabes qui étaient en Espagne. Et donc c'est la situation un petit peu de Montpellier entre l'Espagne musulmane et l'Europe féodale qui a transité par ici. C'est une des raisons qui a fait que, parce qu'il y a aussi beaucoup de médecins donc arabes et juifs qui se sont posés à Montpellier, qui du coup, ensuite, comme l'université commençait peu à peu à prendre son essor, s'y sont fixés. Et il y a eu notamment une décision très importante qui date de la fin du XIIe, c'est Guillaume VIII, pardon, le dernier d'ailleurs des Guillaume de Montpellier, qui a autorisé les médecins arabes et juifs à enseigner. C'est-à-dire qu'ils étaient là, dans beaucoup d'universités, mais ils n'avaient pas le droit d'enseigner. Le fait qu'on leur donne ce droit à Montpellier a aussi grandement contribué à l'essor de cette université.
Une autre grande figure de chirurgien qui a donné son nom à un hôpital de Montpellier, c'est François de Lapeyronnie.
François Lapeyronnie, éloge de Lapeyronnie, couronné par la Société de médecine pratique de Montpellier dans la séance du 1er janvier 1819. Il savait que l'expérience isolée de chaque praticien ne peut produire, même dans le plus long exercice, qu'un petit nombre de faits, quelquefois même inexacts et mal observés. Que ces faits ont besoin d'être soumis à une sage critique, à un examen raisonné, pour qu'on puisse en déduire une théorie plus sûre, une pratique plus judicieuse. Il jugea combien il était possible et même nécessaire de rassembler les chirurgiens de la capitale, de les former en société pour réunir les sentiments, éteindre les haines, les disputes, pour recueillir les observations, les découvertes importantes souvent perdues pour l'art et en former un corps de doctrine, un dépôt de connaissances, un foyer de lumière capable d'éclairer les praticiens et leur servir de guide dans toutes les circonstances possibles. Il espéra que l'émulation, mère des succès, animerait tous les membres de cette réunion, et jamais espérance ne fut mieux réalisée.
Oui, alors François Lapeyronnie, alors là surtout au XVIIIe siècle, il est né fin XVIIe et il a beaucoup travaillé fin XVIIIe. Alors là, on a fait un petit saut dans le temps, mais la chirurgie, c'est un peu grâce à lui qu'elle va vraiment s'imposer, parce que malgré tous les tabous, n'étaient pas encore tous tombés. Vous savez qu'il y avait ce qu'on appelait les barbiers chirurgiens. C'était un seul métier. Bon, en fait, dans la réalité, c'était quand même les chirurgiens qui faisaient les opérations et les barbiers qui faisaient les barbes. Mais enfin, bon, c'est pour dire que la chirurgie a mis beaucoup de temps à avoir ses lettres de noblesse. Et François de Lapeyronnie, qui lui est un Montpelliérain, il a beaucoup contribué. Alors là aussi, il est un praticien tout à fait hors du commun, qui réussit des opérations extraordinaires, qui donc du coup après le bouche à oreille fait que voilà, il devient le médecin de Louis XV, etc. Il est très habile, en plus très organisé, et il va contribuer lui aussi au développement de la chirurgie. Parce qu'il y a aussi un aspect qui est intéressant, dont on ne parle pas souvent, c'est qu'en fait, tous ces grands médecins étant près de donc des souverains et des papes, étaient souvent leurs confidents aussi, étant près de leur corps, on va dire, ils étaient près de leur âme aussi, et donc on leur confiait des missions diplomatiques aussi. C'est-à-dire que justement, comme un tel souverain ou tel pape avait été satisfait des services de ce médecin, ben, il le recommandait évidemment auprès de ses congénères et ainsi de suite. Donc, et parfois, comme s'il y avait une bonne complicité entre eux, ils le chargeaient aussi de missions diplomatiques. Donc voilà, ça, tout ça va même au-delà de la médecine.
Vous racontez qu'il n'a pas été que chirurgien, mais qu'il a aussi écrit une déclaration des droits des chirurgiens. Est-ce que l'on peut considérer cet écrit comme un ancêtre d'un code de déontologie médicale?
oui, c'est surtout c'était la reconnaissance de cette partie de la médecine qui n'existait pas encore. Et il a été celui qui a. Il y avait eu d'abord Guy de Chauliac, après il y a eu Ambroise Paré, mais il a été celui qui a définitivement posé un petit peu la chirurgie comme discipline à part entière. Et quoique, d'ailleurs, si c'est amusant de voir, par exemple, devant, vous savez, l'entrée de la faculté de la médecine à Montpellier, il y a deux statues de grands médecins assis. C'est la Péroni et c'est Barthès. Donc, la Péroni, on le reconnaît, il est à gauche parce qu'il a ses outils de chirurgien qui ont été sculptés là, à ses pieds. Mais il n'a pas la toge. Il n'a pas la toge de médecin, par exemple. Pourtant, c'est une statue qui a été faite au 19e. Vous voyez, donc même encore, il a fallu vraiment beaucoup de temps pour que la chirurgie soit reconnue en tant que telle. Donc c'est là où il a été important.
Alors, l'histoire de la médecine à Montpellier n'est pas le fait que de médecins. Nous évoquions tout à l'heure la grande épidémie de peste qui a touché Montpellier. Et il y a, à cette époque-là, un personnage important qui est Roch de Montpellier.
Alors oui, Roch, c'est bon, on l'appelle Roch de Montpellier, parfois c'est un Roch. Mais alors, bon, lui, son existence, c'est quand même controversé. Hein. Il y a eu récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu de la Gazette de Montpellier a fait un dossier là-dessus. Il y a quelqu'un qui a sorti une thèse comme quoi, en fait, il n'aurait pas existé. Donc, bon, moi, quand j'ai écrit le livre, effectivement, je me doutais un peu de quelque chose. Donc, j'avais écrit, attention, entre mythe et réalité, autour de Saint-Roch, puisqu'il est devenu un saint, qui a eu une grande aura dans l'Église, il faut être prudent. Alors, effectivement, est-ce qu'il a vraiment existé à ce jour? Je ne peux pas l'affirmer, mais dans son histoire telle qu'elle nous a été transmise, il a beaucoup soigné et guéri de la peste, parce qu'il avait été formé comme médecin, effectivement.
Alors si Roch de Montpellier est une figure peut-être imaginaire, en tout cas il y a un mélange de réalité et d'imaginaire, quelqu'un qui est bien réel par contre c'est Rondelet, Guillaume Rondelet.
Rondelet, oui. Ah oui, Rondelet, c'est un de ces grands esprits de la Renaissance qui était, alors il est vraiment intéressant parce qu'il était à la fois zoologiste, botaniste, médecin, et c'est lui qui est à l'origine du tout premier jardin des plantes. De Montpellier, parce que évidemment, bon, là où il y avait l'université de médecine, il y avait forcément, il fallait des plantes médicinales aussi. Donc, c'est dans ce but-là, d'ailleurs, que Rondelet a créé le premier jardin des plantes, qui après sera bien sûr développé, agrandi et véritablement prendra sa dimension plus tard. Mais c'est lui qui a été, alors en plus, il était l'ami de Rabelais, parce qu'il y a aussi Rabelais quand même qui est passé par Montpellier, qui lui aussi personnage dont on peut dire beaucoup, qui était à la fois il a été médecin, bon, puis l'écrivain qu'on connaît. Ouais. Oui, voilà. Donc, à cette époque-là, il y a Nostradamus aussi, enfin, au moment de Rondelet, d'ailleurs, ils sont tous plus ou moins amis, Nostradamus, Rabelais, Rondelet se croisent à Montpellier. Mais vraiment, c'est une époque assez étonnante, cette Renaissance, parce qu'effectivement, ils s'intéressaient à tout, ces gens. Il est vraiment à l'image de cette époque où on était curieux de tout, on avançait vraiment dans la connaissance, dans tous les sens, sans a priori, sans tabou, à l'image de Rabelais, quoi, qui pouvait aller aussi bien dans le littéraire que dans le scientifique, que dans le médical. Enfin, il n'y avait pas de cloison comme il peut y en avoir beaucoup plus maintenant. C'est ça qui est intéressant, je trouve, à cette époque-là.
Voilà pour les grandes figures de la médecine, pas forcément que des médecins, à Montpellier. Merci à Raymond Alcover qui a mis, je dirais, un peu de chair derrière ces noms qui ne sont pas juste des noms d'hôpitaux.
depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. J'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
C'était votre documentaire retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier, proposé par les radios du CRLO de Montpellier en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Retrouvez tous ces documentaires en podcast sur les sites de Radio Clapas, Radio Campus Montpellier et Divergence FM.